Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Canal Académie. Il fut à la fois écrivain, conteur de tragédies, poète surtout, mais aussi agent secret, spéculateur, propagandiste, conseiller du prince, seigneur, bien évidemment philosophe, académicien, ne l'oublions pas, attraction des salons dans sa jeunesse, pour devenir ensuite le rendez-vous incontournable de la haute société européenne. Embastillé par deux fois, nous connaissons de lui Zadig et Candide, parce que nous les avons étudiés sur les bancs de nos écoles, mais au fond, connaissons-nous réellement Voltaire ? Existe-t-il un Voltaire ou bien plusieurs figures de ce philosophe dont le nom est inscrit dans le siècle des Lumières ? Qui fut donc François-Marie Arouet, dit Voltaire ? C'est ce que je vous propose de découvrir dans ce nouveau numéro d'Un jour dans l'Histoire. Pierre Milza, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est la deuxième fois que je vous reçois au micro de Canal Académie. Nos auditeurs peuvent en effet écouter l'émission consacrée à la politique étrangère de Napoléon III que nous avons enregistrée ensemble il y a deux ou trois ans, si mes souvenirs sont bons. Il s'agissait d'une émission enregistrée à l'occasion de la sortie de votre ouvrage, d'une biographie de Napoléon III, parue chez Perrin. Et c'est chez ce même éditeur que vous venez de publier une autre biographie, cette fois-ci, consacré à Voltaire. Alors, on a déjà dû vous poser plusieurs fois, une bonne dizaine de fois la question, et je ne peux m'empêcher de vous la poser. Pourquoi Voltaire ? Jusqu'à présent, nous vous trouvions sur le 19e siècle, sur le 20e siècle, où vous êtes très à l'aise, sur l'histoire des fascismes, des totalitarismes, vous connaissez parfaitement l'Italie, et là, vous nous faites une surprise, une belle surprise, avec ce Voltaire. Pourquoi Voltaire, Pierre ?
Il y avait déjà une petite surprise avec Napoléon III. Écoutez, je vais répondre honnêtement. J'avais envie de faire un livre sur Voltaire, et ça ne me gêne pas du tout d'être considéré comme un historien du XXe, et tout d'un coup de travailler comme sur le XVIIIe. Ça me gêne d'autant moins que je vois pas pourquoi j'aurais le moindre complexe, puisque je vois autour de moi des hommes politiques, des journalistes, des grands sportifs, avoir envie tout d'un coup d'écrire une biographie. On pourrait en citer un certain nombre. Alors pourquoi l'historien, qui connaît quand même pas mal son métier d'historien, lui serait-il interdit d'entrer dans une autre période que celle dans laquelle il a intervenu en tant qu'universitaire? Moi, je suis un petit peu maintenant hors vie universitaire. Je veux faire donc ce que j'ai envie de faire. Voltaire, c'est un personnage qui m'a toujours passionné. J'avais donc envie de travailler sur Voltaire. Mais la principale raison n'est pas là. La principale raison, c'est l'actualité de Voltaire. Et vous savez que Benedetto Croce disait « il n'y a d'histoire que contemporaine ». Si bien qu'en faisant la vie de Voltaire, en parlant de la vie de Voltaire, des Lumières et de tout ce que fait et dit Voltaire, j'ai l'impression de faire de l'histoire contemporaine, puisque depuis une quinzaine d'années, vous le savez, à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans le domaine de l'intolérance, de l'attaque aux libertés,
de l'arbitraire judiciaire,
mais principalement de l'intolérance et plus encore de l'intolérance religieuse, on dit « au secours Voltaire ». Donc voilà, c'est ce « au secours Voltaire » qui, d'autre part, s'oppose à... J'ai eu beaucoup cette occasion, en écrivant le livre, en parlant aux uns et aux autres, à la fois donc cet appel de l'opinion des Français, de beaucoup de mes amis, à ce personnage, mais avec un arrière-plan, ah oui, mais Voltaire, c'est un riche, c'est un courtisan, c'est un méchant... Bref, des réserves qui sont bien souvent des réserves idéologiques. Alors, entre le haut secours et le halali, j'ai choisi de m'intéresser à la vie de ce personnage et de voir le pourquoi, quelquefois, de ces oppositions entre l'admiration posthume pour Voltaire et puis quelques réticences. Quand j'ai quelques réticences, elles sont parfois très vives, notamment à l'extrême droite et à l'extrême gauche. Si je n'avais pas déjà commencé ce livre, cette biographie au moment où je l'ai lu, le livre de Régis Debray, Aveuglante Lumière, m'aurait persuadé de la nécessité vitale de prendre la défense de Voltaire.
Alors, je disais en introduction que nous connaissons Zadig, nous connaissons Candide. J'aurais dû dire que nous connaissons que Zadig et que Candide, alors que l'œuvre de Voltaire est immense. Et c'est le premier apport, à mon avis, de votre biographie, c'est que vous réhabilitez une œuvre entière et vous présentez cette œuvre, à la fois son contenu, mais à la fois son histoire.
Oui, ce qui est le plus rejeté, ce qui est le plus difficile aujourd'hui à admettre comme au panthéon littéraire, si vous voulez, c'est le théâtre de Voltaire. À part une ou deux pièces, la première, Édipe, Mahomet, dont nous reparlerons certainement, mais pour de toute autre raison, on rejette tout ce que Voltaire a créé comme tragédie, comme auteur tragique, alors que c'était l'un des centres de sa vie. Voltaire était d'abord, si vous voulez, d'abord auteur dramatique, mais pas seulement auteur dramatique, acteur, metteur en scène, et ceci presque au dernier moment de sa vie. Lorsqu'il est, c'est en face de nous parlons, lorsqu'il y a le premier triomphe de Voltaire, Gilles Ier, parce qu'après il ira l'entrée au Panthéon, il sort de l'Académie française pour aller à la Comédie française. Et c'est le dernier salut, finalement, des Parisiens, c'est à l'homme de la Comédie française au tragique. Alors, pourquoi ce rejet du tragique de Voltaire? Parce que je crois, et c'est vrai pour beaucoup d'autres choses chez Voltaire, il est entre deux siècles. Il a un pied dans le 17e, il naît en 94, et il meurt à quelques dix ans de la Révolution française, c'est-à-dire de l'époque contemporaine, du 19e siècle. Et c'est pareil sur le plan littéraire, c'est-à-dire qu'il a un pied chez Racine et il n'a pas encore le pied chez Hugo. Et je crois que du coup, il a raté quelque chose.
Nous allons le voir, il y a du classicisme.
Il y a du classicisme, il veut classique, il veut bien souvent dire mais il faut garder les trois unités, mais en même temps, Shakespeare, qui quelquefois l'énerve par sa crudité, Shakespeare, il l'admire pour ses mises en scène. Alors, pour répondre à votre question, c'est vrai, c'est surtout Zadig et c'est surtout Candide. N'oublions quand même pas le siècle de Louis XIV, parce qu'il supporte, lui, alors très bien la relecture d'aujourd'hui. C'est quand même une œuvre très moderne, c'est quand même la première fois qu'on trouve un historien qui nous dit « j'ai pas seulement envie de raconter les batailles et la grandeur des souverains, mais toute une civilisation, ça, il essaie sur les mœurs », c'est comme quelque chose qui se relie très très bien. Et puis, il y a des poèmes de Voltaire, alors pas la Henriade, c'est vrai que ça a beaucoup vieilli, mais je cite, et il faudrait presque le lire en entier, le reproduire en entier et le savoir par cœur, le poème sur le désastre de Lisbonne, qui est une œuvre absolument magnifique, hugolienne, c'est la légende des siècles. Et moi, je rêve, si vous voulez, d'un film d'actualité, d'un documentaire sur le tsunami d'il y a deux ans, avec en voix off le discours sur le désastre de Lisbonne, quelque chose d'extrêmement émouvant. Alors voilà, et puis, il y a la correspondance de Voltaire, et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, à la fois sur le plan documentaire, pour sa vie et pour son environnement, pour le siècle des Lumières, mais maintenant pour cette écriture extraordinaire, cette langue extraordinaire, il est un des très grands façonneurs, fabricants et correcteurs en même temps de la langue française.
À vous lire, on a l'impression qu'il écrit tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Alors ça, c'est fondamental, c'est sa survie. Cet homme est mort-né, si l'on peut dire. On a, pendant un an, vous savez qu'on, les enfants, un sur deux ou un sur trois, au 18e, au 17e, au 18e siècle, lui, tous les jours, il était condamné. Le médecin disait, bon, on n'en tirera pas. Son parrain, l'abbé Duvernay, venait le voir tous les jours pour demander des nouvelles à la nourrice. Il y a une espèce de premier défi dans la vie de cet homme, qui est le défi contre la mort, de ce bébé qui lutte contre la mort. Et toute sa vie, ça va être une lutte contre la mort, qui a une très mauvaise santé, il est chétif. Et c'est quelqu'un qui, normalement, aurait dû disparaître assez jeune. Il meurt à 84 ans. Et ça, je crois que l'écriture a été un élément décisif. L'écriture lui permet de survivre. Quand ça ne va pas, il se met à écrire, et ça lui a permis de survivre. Donc c'est vrai qu'alors nous avons 40 000 lettres, 20 000 qui sont publiés, 13 volumes de la Pléiade, et c'est un vrai bonheur. Moi, je conseille aux gens de lire la correspondance, c'est un vrai bonheur de ce qu'il nous apprend d'abord. C'est tellement plus joyeux que Saint-Simon, j'aime beaucoup Saint-Simon, mais sur ce qu'il nous apprend sur son siècle et ce qu'il nous apprend sur lui-même, car c'est en même temps très autobiographique.
L'œuvre littéraire, l'œuvre historique, philosophique, militante, enfin sa correspondance, vous avez, vous, Pierre Milza, une préférence ou... Dans vos recherches, au fond, vous avez pris votre miel là où il se trouvait, dans chacun de ces genres.
Curieusement, beaucoup dans ce qui est le plus oublié, c'est beaucoup dans la poésie. Alors peut-être parce que j'aime la poésie, peut-être parce que je suis un amoureux de l'alexandrin, mais je trouve que l'alexandrin voltairien est superbe. Il a appris ça chez les jésuites, au collège Louis-le-Grand, ensuite il l'a pratiqué, mais il l'a pratiqué tout petit. Il faisait des joutes de versification avec son frère aîné, le frère janséniste en quelque sorte, et je trouve sa poésie assez belle. Et probablement ce qui a le mieux résisté dans son théâtre. Il me semble que les gens qui allaient voir du Voltaire, qui allaient voir les tragédies de Voltaire, c'est un peu comme ceux qui allaient écouter l'opéra, qui se préoccupaient pas tellement du livret, mais qui écoutaient surtout la musique. Il y avait un peu la musique du vers, plus que le scénario qui était à la fois classique et passablement ennuyeux bien souvent. Alors si vous me demandez moi ce que je préfère, c'est l'œuvre historique. C'est le siècle de Louis XIV, c'est l'essai sur les mœurs, c'est les lettres philosophiques, parce que il y a déjà beaucoup de choses dans ce jeune Voltaire qui revient en Angleterre.
C'est ce que vous dites, c'est le premier manifeste des Lumières, les lettres philosophiques.
Tout à fait. Bon, il y a déjà eu Fontenelle, mais enfin, c'est quand même vraiment le premier manifeste des Lumières. Et c'est surtout ce qui nous indique d'entrée de jeu qui est Voltaire sur le plan idéologique, c'est-à-dire un libéral dans un régime autoritaire. Si ce régime autoritaire est fondé sur l'idée que ce qui compte, c'est d'apporter le bonheur aux hommes, peu importe le régime, qu'il soit républicain, qu'il soit monarchique, pas tellement républicain chez Voltaire, mais en fait qui croit à la République à ce moment-là. Mona Azouf nous a bien expliqué que la sacralisation du roi, c'est déjà quelque chose de largement dépassé. Donc c'est ça, on apprend déjà qui il est sur le plan politique, ce qui va devenir dans le fond l'admirateur du despotisme éclairé à la Frédéric II ou à la Catherine II, et puis ce qu'il est sur le plan religieux, c'est-à-dire cette admiration pour les Quakers, cette admiration pour le théisme, hein, le déisme, pas encore le théisme, mais
nous
le déisme,
revenir, oui.
Et qui révèle déjà sa guerre contre Pascal, contre Descartes et contre Pascal, parce que Pascal qu'il déteste, parce qu'il ne le déteste pas, mais enfin, comment on peut être aussi pessimiste qu'il ne l'est, mais qui nous renseigne sur un personnage qui est à la fois contre les églises constituées, contre la religion chrétienne, et qui est fondamentalement religieux, qui est un personnage religieux. On découvrira beaucoup par la suite, mais ça c'est important. Donc les lettres philosophiques, c'est déjà tout ça.
Je reçois Pierre Milza, auteur d'une biographie de Voltaire parue chez Perrin. Nous nous retrouvons dans un instant.
Nicolas Poussin et Orphée, la collection privée de Goethe, la gravure de Louis-René Berge, les méditations sur la beauté de François Cheng, les tableaux de Bernard Buffet, de Velikovitch, les œuvres de Pierre-Yves Trémoy, mais aussi le monstrueux dans l'art, ou Bosch et les tentations de Saint-Antoine, Canal Académie vous propose une série d'émissions sur l'art et de réflexions sur la beauté.
Nous reprenons le cours de notre émission. Je reçois Pierre Milza, auteur d'une biographie consacrée à Voltaire, parue aux éditions Perrin. Alors nous avons largement, si je puis dire, introduit le sujet. Venons-en, si vous le voulez bien, Pierre Milza, à la chronologie. Nous l'avons dit, il est né en 1694 dans une famille, dites-vous, qui constitue un bel exemple de promotion bourgeoise. Et dès les premières lignes de votre ouvrage, vous écrivez « N'étant pas issu de quelques lignages aristocratiques, il voudra être le premier de sa race et de son nom. Il y a constamment chez Voltaire, vous le disiez tout à l'heure, un défi. Est-ce qu'il y a aussi une volonté de plaire ?
Ah, incontestablement, il y a une volonté de plaire, il y a une volonté de conquérir, il y a une volonté de monter aussi rapidement que possible dans l'échelle sociale. Il ne faut pas oublier que ce garçon fait ses humanités au collège Louis-le-Grand, au collège de jésuites. Alors il y a d'abord tout ce que vont lui apporter les jésuites. Il est à la fois anti-jésuite, mais en même temps admirateur de la grande compagnie qui lui a apporté sa culture. Mais ça lui apporte surtout cette volonté, ce défi dans le fond, à ces jeunes aristocrates qui hantent le collège Louis-le-Grand, les d'Argenson, Richelieu et beaucoup d'autres, et la volonté de quelque part de les rattraper, au moins de faire quelque part jeu égal avec eux. Donc, bien sûr, volonté de plaire, volonté de conquérir et volonté de monter dans l'échelle sociale.
Alors c'est la palissade peut-être, mais il est brillant, on dirait même aujourd'hui brillantissime. Je ne peux m'empêcher de résister de citer un passage qu'il a au fond déclamé de manière totalement improvisée alors qu'il venait d'être repris par un jésuite parce qu'il jouait avec sa tabatière. On lui demande de composer une poésie et lui, aussitôt, il la compose. « Adieu ma pauvre tabatière, il a 12 ans. Adieu, je ne te verrai plus, ni soins, ni larmes, ni prières ne te rendront à moi. Mes efforts sont perdus, etc. etc. » C'est un garçon très précoce.
Alors, c'est un garçon très précoce, c'est un fort en thème latin. Plus en thème latin, il ne fait pas de grec, mais en thème latin, en versification latine, en versification française, c'est un très bon élève. Mais ce qu'il faut noter, c'est que bien souvent, le très bon élève, imaginez un très bon élève qui déplairait à ces jeunes messieurs de l'aristocratie, car ils n'ont pas tout à fait le même régime au collège Louis le Grand, mais lui, il mène le chahut en même temps. C'est-à-dire qu'il n'est pas seulement premier de la classe dans les matières sérieuses, il est premier de la classe et dans l'impertinence, on voit bien avec la tabatière. Alors ça lui vaut quelquefois quelques coups de verge des bons pères, mais c'est ce qui va en même temps lui faire conquérir ce milieu des jeunes aristocrates qui pourra après tout mépriser ce petit bourgeois, surtout si il les dépasse sur le plan intellectuel. Et ça, ça sera pour beaucoup, parce que les amitiés qu'il va nourrir, qu'il va commencer à avoir au collège, il les aura toute sa vie. Ces protecteurs-là d'Argenson, Richelieu, etc., il les aura toute sa vie. Et pour lui, c'est très important. Au moment où il va saisir l'opinion publique, où il va intervenir sur l'espace public, d'avoir ces gens-là derrière lui, et notamment des gens comme les d'Argenson qui ont été ministres l'un et l'autre, et au plus haut niveau, c'est très important.
Alors, il existe une influence contradictoire. D'un côté, il y a les jésuites qui lui apprennent beaucoup, envers lesquels il est reconnaissant d'ailleurs après. Mais de l'autre, un parrain, l'abbé Châteauneuf, qui lui, pour le coup, est complètement libertin.
Complètement libertin et qui va l'introduire dans ces sociétés du Temple, qui est une société qui rassemble un certain nombre de jeunes nobles, d'esprits libertins, ce qui ne veut pas dire forcément uniquement le laxisme de la volupté, la recherche des plaisirs absolument, même si quand même les dîners au Temple, où n'est pas reçu tout de suite, hein, lui il assiste aux séances où l'on discute de la religion et de la philosophie, les dîners un petit peu genre du dîner de la Régence, il y sera admis vers l'âge de 15 ans, enfin quand même, ça va beaucoup le marquer. Et c'est là que se constitue la religion de Voltaire. Il n'est absolument pas question qu'il s'oriente, malgré les Jésuites, vers une religion très traditionnelle, et que ces libertins sont déistes la plupart du temps. Quelques-uns athées, mais la plupart déistes, et lui-même va, à ce moment-là, opter pour l'idée d'un dieu naturel, d'une religion naturelle. Donc, il y a une importance assez grande de ces quelques années qu'il va passer au contact des gens de la société du Temple.
Mmh. Alors, il perd sa mère très jeune, hein, à l'âge de 7 ans.
Oui.
Qu'en est-il de son père? Il a des rapports difficiles?
Il a des rapports très difficiles avec le père et avec le frère, parce que le frère, lui, a suivi la ligne tracée par le père. Tu seras non pas notaire, mais on commence à acheter des charges importantes. Lui-même, le père de François-Marie, a une charge importante à la Cour des comptes. Donc, il y a rapidement une opposition avec ce père qui veut absolument faire de lui un noble de robe, le voir accéder à la noblesse robine. Donc, il est prêt à lui acheter une charge coûteuse. Il est riche, le père Arouet. Et lui qui veut pas. Il sort du collège et tout de suite il dit « Moi, je serai poète. » On n'a pas le mot à la tête, je ne serai pas écrivain. « Je serai poète, c'est-à-dire j'essaierai d'exceller dans les deux genres nobles de l'époque qui sont la tragédie et les vers, la poésie. » Donc là, il y a une opposition fondamentale entre les deux. Et d'abord, il a eu une première révolte de Voltaire sur le plan des études. C'est à la sortie chez les jésuites, à l'âge du bac, quoi, la classe terminale, dirait-on aujourd'hui, donc classe de philosophie. À la fin de cette classe, on doit leur délivrer quelque chose qui ressemble à notre baccalauréat, mais il faut faire une dissertation, disons une petite thèse, on dirait aujourd'hui un mémoire. Et il rate, lui, l'excellent élève, toujours premier, il rate complètement ce mémoire. Alors les bons pères sont quand même conciliants, ils le convoquent, mon cher François-Marie, c'est pas grave, on va recommencer, vous allez nous faire la même dissertation, enfin, c'est la session de rattrapage, si vous voulez, et il refuse. Il comptait l'élève que je suis qui me contraigne à recommencer ma dissertation, il n'en est pas question. Alors révolte contre le père, car le père veut l'envoyer faire des études de droit. Alors il commence des études de droit, mais ce sont plutôt des balades nocturnes avec ses copains, les 400 coups, peut-on dire, puisqu'à un moment, il y a une personne de l'aristocratie qui lui demande un texte, qui lui demande de travailler pour elle. Il écrit donc ce texte, et en échange, elle lui donne une somme d'argent importante. Alors, il y en a qui les auraient mis de côté pour s'acheter des livres ou bon,
lui,
pour survivre.
Tout.
Il achète un carrosse, il y a 4 chevaux, il attelle ses 4 chevaux, il achète les 4 chevaux, il loue des types à qui il donne tout de suite des habits de laquais et le voilà parti dans tout Paris à hurler une nuit entière pour finalement aboutir au palais. Le père est à sa maison dans la cour du palais à 2h du matin avec son cheval, etc. Bon, c'est ça Voltaire, c'est la bohème. Hein. Mmh. Et du coup, ça va très mal avec le père. Donc, à plusieurs reprises, le père de François-Marie lui coupe les vivres. Ouais, nous, du moins, menace de lui couper les vivres. Et finalement, il a à peine 20 ans, alors 19 ans, il l'expédie en Hollande comme secrétaire du nouvel ambassadeur. Mmh. Où là, d'ailleurs, Voltaire connaîtra la première passion amoureuse de sa vie.
Voilà, ce qui fera scandale d'ailleurs, il devra revenir en France, voilà. Etc. Il y a encore une fois un défi permanent chez Voltaire. Vous disiez tout à l'heure qu'il fréquente la haute société, qu'il a rencontré au collège. Vous racontez l'anecdote lors d'un dîner chez le prince de Conti, il s'écrit « Sommes-nous tous princes ou tous poètes ?» Vous dites « Tout Voltaire est dans cette apostrophe ».
Tout à fait. Tout Voltaire est dans cette apostrophe, d'abord parce que pour lui, le poète doit devenir l'égal du prince, au moins l'égal du prince. Et d'autre part, ça fait partie en même temps de son goût de la provocation. Il sait très bien qu'en faisant ça et en disant ça, ils en tiendront rigueur. Et effectivement, quelques années plus tard, on va avoir la fameuse affaire du chevalier de Rohan, où là, il est lâché par ses amis aristocrates.
Alors, il est en contact avec le régent, parce que bon, le temps passe, Louis XIV meurt, bien évidemment. Il y a la période de la régence. Il est proche du régent.
Non, il n'est pas proche du régent, il est dans le camp adverse. Quand on dit il y a tout Voltaire, là aussi il y a tout adverse. Non, c'est un peu par hasard, il va aller au château de Sceaux, chez la duchesse du Maine, le duc et la duchesse du Maine, qui sont des frondeurs, des personnages extrêmement importants. Ils vont même tellement fronder qu'ils vont comploter contre le régime et qu'ils vont être condamnés au bannissement. Mélina, elle reviendra, elle, c'est la duchesse du Maine quelques années plus tard, mais ils sont bannis. Alors, ils sont, ces gens-là, de grands adversaires du régent, parce qu'ils ont tout simplement envie que leur clan prenne la place du clan du régent. Et du coup, Voltaire, par jeu, par goût de la provocation, va faire des pamphlets et produire notamment des poèmes dans lesquels il est très dur vis-à-vis d'Orléans, et notamment jusqu'à à mot couvert, ce que tout le monde dit d'ailleurs sous le manteau, dire que dans le fond, entre le régent et sa fille, il y a des rapports plus que intimes. Okay. Voilà. Donc tout ça va lui valoir son premier séjour à la Bastille, et c'est le régent qui l'envoie à la Bastille pour 10 mois. Pour 10 mois.
Ce qui est une longue période. Visiblement, dans votre biographie, l'expérience porte ses fruits. C'est-à-dire qu'il va non pas se remettre en cause, mais en tous les cas, il va changer. D'ailleurs, c'est d'après l'expérience de la Bastille qu'il devient Voltaire. D'où vient ce nom de Voltaire ?
Oui, il y a plein d'explications. On irait même jusqu'à parler de Volterra. Celle qui a été conservée, je crois, c'est l'anagramme de son nom avec le sigle des prénoms. Arouet a donné Voltaire. On retrouve à peu près les mêmes lettres. Alors, on pense que c'est ça. Il y a d'autres interprétations, mais il y a beaucoup de hasard dans tout ça.
Alors, on retrouve le père qui meurt en 1722. Il y a un testament, et ce testament est très sévère à l'égard du fils.
Très sévère, puisqu'il il ne peut pas le déshériter complètement, mais il met comme condition que si, 10 ans plus tard, François-Marie s'est acheté une conduite, en quelque sorte, ben, il pourra avoir l'usufruit de son héritage. Donc, c'est quand même un moment, d'ailleurs, où Voltaire est sans argent. Va devenir un homme très riche, mais à ce moment-là, il aurait besoin de cet héritage. Et c'est un peu un défi qui va être utile pour lui, parce qu'il y a un peu d'argent, il va en gagner. Parce que le problème de Voltaire, c'est dans le fond quoi ? Moi, je veux être un grand poète, je veux être un grand auteur dramatique. Il y a plusieurs manières de faire de la littérature. C'est ou bien faire ce qu'on appellerait aujourd'hui le pigiste, c'est-à-dire fabriquer à longueur de journée des petits textes pour les uns ou pour les autres, ou bien c'est d'être poussé par quelques princes, par quelques mécènes, et d'être courtisan pour devenir écrivain et pour gagner sa vie comme écrivain. Alors lui, le mieux pour être libre, c'est d'abandonner l'idée que la littérature peut me nourrir. La littérature, ça sera l'objectif final. Eh bien, je vais d'abord devenir riche avant de devenir un auteur connu. Et il se lance à ce moment-là dans c'est par étapes, spéculation boursière dans un premier temps, ou spéculation monétaire, l'affaire Laos. On appellerait ça aujourd'hui délit d'initié, quelques opérations plus ou moins marginales, et puis ensuite les placements. Alors les placements dans le grand commerce maritime, ce qui vaudra à Voltaire d'être vivement attaqué aujourd'hui encore en disant c'est un négrier. Non, il n'a probablement pas été négrier, mais il s'est lancé dans le grand commerce maritime, qui a rapporté beaucoup d'argent, et c'est pas là qu'il est devenu le plus riche, et quand il a réussi à placer cet argent comme prêt au grand seigneur. Alors là, Richelieu, le prince de Conti, mais aussi le grand duc de Wurtemberg, ils placent des sommes colossales avec des pourcentages qui sont pas exorbitants. Quelquefois, ça lui rapportera gros, quelquefois, il perdra. Et en fin de compte, lorsque sa nièce hérite, elle hérite en même temps de beaucoup de dettes qui ne seront pas remboursées. Mais lui, il vivra toute sa vie sur un très large pied, comme un grand seigneur, parce qu'il a réussi à devenir riche dans les affaires et dans le commerce de banque, pourrait-on dire.
Alors, Pierre Milza, nous allons, si vous le voulez bien, sortir de cette chronologie. Je renvoie nos auditeurs à votre ouvrage paru chez Perrin, votre biographie. Vous décrivez notamment ses liens avec le poète Jean-Baptiste Rousseau, à ne pas confondre avec Jean-Jacques Rousseau, puis sa rupture avec ce personnage, ses relations avec ses amis, le fameux Thieriot, ses relations amoureuses aussi, ses relations avec le pouvoir, avec Frédéric II et Catherine II, dont on a parlé. Et je voudrais aborder l'œuvre littéraire, l'œuvre philosophique, après cette deuxième pause. À tout de suite. Nous reprenons le cours de notre émission. Je reçois Pierre Milza, auteur d'une biographie de Voltaire parue chez Perrin. Alors, avant cette pause, Pierre Milza, j'ai souhaité sortir de cette chronologie pour en venir aux idées. Et finalement, les idées commencent avec la tragédie. Il y a eu d'abord Oedipe, écrit très jeune. Il y a ensuite l'Henriade, qui sont des succès. Que raconte l'Henriade ? On a retrouvé un exemplaire de l'Henriade dans la statue d'Henri IV.
Pratiquement en face. Et on l'a retrouvé d'ailleurs récemment, on l'a retrouvé en 2006, je crois.
2004.
Ça a même été un événement important. Le ministre de la Culture s'est rendu sur place. Il y a eu une analyse du texte pour voir si c'était vraiment, effectivement, c'était un texte, c'était un manuscrit de l'Henriade qui a été déposé là au moment où on a reconstitué la statue d'Henri IV qui avait disparu au moment de la Révolution. Alors, sous la Restauration, d'abord un petit peu boudé Voltaire, et puis finalement, on a remis cette statue d'Henri IV. Alors, l'Henriade, c'est le roi Henri IV, c'est le grand roi. Et ça, c'est très important, parce que aussi bien l'Henriade que le siècle de Louis XIV sont des œuvres qui font, dans le fond, l'apologie d'un souverain, apologie d'Henri IV dans l'Henriade, apologie de Louis XIV et de son siècle dans le siècle de Louis XIV, mais en même temps, en creux, forcément, c'est une mise en question de ce qui suit, c'est-à-dire du règne de Louis XV. Peut-être un petit morceau du règne de Louis XVI dans les dernières années, mais c'est la remise en question du règne de Louis XV. D'ailleurs, Louis XV est furieux. Louis XV n'aime pas du tout le Voltaire de La Henriade, et moins encore celui du règne de Louis XIV. Donc, il y a chez Voltaire une volonté, quand même, au départ, pour La Henriade, d'être le poète, après Ronsard et La Franciade, d'être le poète, le premier poète qui est capable de faire l'Odyssée ou d'Homère, hein, c'est-à-dire d'être le Homère français. Donc il a choisi son héros, et son héros, c'est déjà quelqu'un qui nous donne un peu la connotation de la religion de Voltaire. C'est un protestant qui se fait catholique, c'est un grand tolérant, c'est l'édit de Nantes, et il n'hésite pas à en parler, à le dire, et même à le dire au régent. Voilà au moins un grand roi, parce que c'est le roi de la tolérance. Donc on a là quelque chose qui met déjà Voltaire en guerre avec le souverain.
Révolutionnaire dans l'esprit, mais classique dans la forme, dans l'écriture.
Ah, extrêmement classique. Alors révolutionnaire dans l'esprit... Et peut-on dire qu'il est révolutionnaire ? Il est...
Finalement, après le règne de Louis XIV, vous décrivez d'ailleurs l'enterrement de Louis XIV. Louis XIV, on souhaitait son départ. Et donc, vous montrez les lazzis, vous décrivez les lazzis. Et finalement, Voltaire apparaît plus attiré par ce XVIIe siècle que par le XVIIIe siècle.
Oui, c'est-à-dire qu'il est déçu. Il est déçu, il est forcément déçu par le règne du régent, mais il est surtout déçu par le règne de Louis XV. Il voudrait bien vivre un siècle de Louis XIV. Parce que s'il vivait un siècle de Louis XIV, il serait forcément Racine, plus Molière, plus La Fontaine, vous voyez. Et il aspire à ça. Et comme, très vite, il s'aperçoit que Louis XV, c'est pas Louis XIV, et on en est assez loin, il va, non pas s'opposer politiquement, mais s'opposer par la littérature, parce qu'il est dans la littérature, à ce souverain qui n'est pas digne, en quelque sorte, de ces deux prédécesseurs-là, d'Henri IV et de Louis XIV.
Il y a un paradoxe, là encore, chez Voltaire, parce qu'il est attiré par ce XVIIe classique, et c'est peut-être pour cette raison aussi que la droite a trouvé chez Voltaire une partie de son miel, tout comme la gauche, elle, a trouvé aussi son miel, mais sur d'autres idées. Il n'y a pas de clivage gauche-droite dans l'exploitation de Voltaire.
Il n'y a pas de clivage gauche-droite, et aujourd'hui encore, il peut être à la fois critiqué par les deux et consensuel. Parce que dans le fond, quand on fait appel, et on fait appel, vous le savez, constamment, aux valeurs républicaines, et qu'on fait la liste des valeurs républicaines, justice, équité, du moins, égalité devant l'impôt, liberté, tolérance, etc. Il y a quand même une bonne partie de ces valeurs républicaines qui sont héritées, qui sont l'héritage de Voltaire, lequel n'était pas républicain du tout. Tout simplement parce qu'à l'époque, on n'imaginait pas la République, en tout cas la tête d'un peu pour un grand État. Donc il peut à la fois être monarchiste, être favorable à un pouvoir... Je dirais pas absolu. Faut faire attention, mais absolutiste, il a été employé récemment. Là, je veux dire, c'était un petit peu bizarre d'entendre un grand personnage politique d'aujourd'hui nous parler d'absolutisme. Passons. Ce qu'il veut, c'est un roi qui ait de grands pouvoirs, qui soit éventuellement absolu, si on veut, dans la mesure où celui-ci doit faire le bonheur de son peuple et respecter la population, d'être un bon roi au sens où Henri IV a été un bon roi.
Après la querelle avec le chevalier de Rohan, il est parti en Angleterre. Il a été marqué par le système politique anglais comme d'autres en son temps.
Tout à fait, c'est son idéal politique. C'est à la fois les déistes anglais, son idéal religieux, et les philosophes anglais... La plupart des philosophes anglais et les institutions anglaises sont modèles. C'est-à-dire une monarchie, dans le fond, le pouvoir est exercé par le roi. Le roi gouverne, il ne se contente pas de bénir ou simplement de régner, il gouverne, mais il le fait de manière rationnelle, assisté d'un parlement qui vote le budget. Une fois que ce budget est voté, il est voté. Donc une monarchie tempérée, une monarchie forte, mais tempérée. Ça, c'est l'idéal politique de Voltaire. C'est l'idéal d'un libéral du XIXe siècle. Dans le fond, les principaux héritiers de Voltaire, on les trouve parmi les libéraux du XIXe siècle. Et ça, il le connaît en Angleterre. Et c'est une surprise, parce que dans le fond, il s'y attend pas tellement. Lui, il sort quand même d'un pays où règne un absolutisme, mais doublé d'un côté un peu tyrannique, quand même. Et il arrive là, il découvre ces institutions anglaises, et il est particulièrement marqué. Et si les lettres anglaises sont déchirée, lacérée, pardon, et brûlée aux marches du palais de justice, sur ordre du Parlement, sur décret du Parlement, c'est bien parce qu'on lui reproche justement de faire en creux la critique des institutions françaises et la critique de la religion catholique à travers l'exemple anglais. Et les lettres anglaises, les lettres philosophiques, d'abord, les lettres anglaises sont d'abord publiées en anglais. Et on a même cette chose assez extraordinaire que pour écrire ensuite les lettres, enfin, il fait pas de traduction. Il reprend les lettres anglaises et il refait son livre sur le texte anglais. C'est assez curieux.
Alors, un des aspects de la vie de Voltaire, c'est qu'il est souvent en exil en Angleterre. Il voyagera beaucoup. Il sera également à Genève. Et à chaque fois, cette position d'exil lui permet de prendre du recul et, au fond, d'aborder peu à peu la philosophie. Comment devient-il philosophe? Vous dites que ce n'est pas un philosophe à la Kant ou à la Spinoza. De quel type de philosophe s'agit-il?
Alors, il en donne lui-même la définition dans un certain nombre de textes. C'est dans le fond le personnage, l'écrivain, qui est capable de transmettre dans un langage accessible, dans le fond, les données récentes de la science et les grandes idées des scientifiques, Descartes, etc. Newton, surtout Newton. Et il a la chance, parce que vous me dites comment on devient philosophe. Il a la chance de rencontrer à 40 ans la passion de sa vie, Émilie du Châtelet, qui mourra 17 ans plus tard, 17 ou 18 ans plus tard, avec qui il a vécu donc une longue passion, avec très tourmentée. Elle est une scientifique, mathématicienne, physicienne. C'est elle qui introduit Newton en France et c'est elle qui initie Voltaire à la philosophie. Dès les premières années à Cirey, puisqu'ils vivent à Cirey, dans le château du mari d'Émilie, le marquis du Châtelet, et c'est là que Voltaire se frotte à la philosophie. Il l'a fait un petit peu en Angleterre, mais de manière très superficielle. Là, il entre véritablement dans ce qui est pour lui le métier de philosophe, cette traduction dans le fond des données de la science dans un langage accessible aux honnêtes gens, comme on dit à l'époque, aux gens cultivés.
Est-ce une forme de positivisme avant la lettre telle qu'on le considérera au XIXe siècle?
Je ne sais pas si on peut dire que c'est un positivisme. D'une certaine manière, oui, dans sa conception de l'histoire. Mais l'œuvre de Voltaire est tellement marquée par le sentiment religieux que ça bloque un petit peu du côté du positivisme tel qu'on le... On parlera au 19e.
Alors, nous allons voir sa conception religieuse, mais quand on parle philosophie au 18e siècle, on ne peut pas s'empêcher de penser à Jean-Jacques Rousseau, et les deux hommes se détestaient profondément. En tous les cas, au début, ils ont des rapports cordiaux, amicaux. Jean-Jacques a de l'admiration pour Voltaire, et peu à peu, il y a une dégradation. Et Voltaire est d'ailleurs assez ironique. Je voudrais citer... Donc il reçoit le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, et Voltaire écrit « Il prend envie de marcher à quatre pattes quand on lit votre ouvrage. Cependant, comme il y a plus de 60 ans que j'en ai perdu l'habitude, je sens malheureusement qu'il m'est impossible de la reprendre, et je laisse cette allure naturelle à ceux qui en sont plus dignes que vous et moi. Je ne peux non plus m'embarquer pour aller trouver les sauvages du Canada, etc. etc. » Il est très, très, très ironique, dès le début de leur relation.
C'est peut-être un chef-d'œuvre d'ironie. D'ailleurs, on parlait de l'école tout à l'heure, c'est un des textes qu'on lit en classe de première et que même certains élèves présentent à la première partie du bac. Oui, alors effectivement, dans un premier temps, il y a une fascination de Rousseau. Il en parle dans ses confessions. Il dit qu'il a adoré au début le théâtre de Voltaire. Voltaire est un petit peu plus réticent, mais il trouve quand même que ce jeune homme a des qualités. Jusqu'au moment où il y a deux points sur lesquels ils vont véritablement lutter. Il y a d'abord le théâtre. Il y a la lettre sur le théâtre, il y a le fait que Rousseau ne veut pas qu'on joue du théâtre à Genève pour pervertir la bonne société genevoise, la société protestante genevoise. Et puis surtout, il y a ce que vous venez de lire, c'est-à-dire le fait que Rousseau est l'homme, dans le fond, de la nature et Voltaire est l'homme de la culture. Et il s'oppose là-dessus, l'un est pour, l'autre est contre la civilisation. Pour Rousseau, c'est la société qui a apporté l'inégalité et le malheur des hommes, et pour Voltaire, c'est tout le contraire. contraire. Mmh. Ça fait quand même 60 ans que j'ai, je marche plus avec quatre pattes, et surtout, j'ai là le meilleur médecin du monde. Et en plus, c'est vrai, puisque le médecin, c'est Tronchin, c'est le grand Tronchin, l'inventeur de la, comment dire, des prémices de la vaccination. Et à partir de là, c'est l'engrenage des insultes. Jusqu'à ce que Voltaire, c'est pas ce qu'il a fait de mieux, mais il est ambigu, Voltaire, hein. C'est-à-dire il peut être d'une bonté extraordinaire et d'une méchanceté redoutable. Et lorsqu'il va quand même raconter, alors qu'il y a que 5 ou 6 personnes qui le savent, Grimm, Madame d'Épinay et 2 ou 3 autres, que Rousseau, qui vient d'écrire Les Mille, et donner des leçons de pédagogie à la terre entière, a déposé ses enfants au tourniquet des innocents, et que c'est évidemment, c'est le drame entre eux, c'est la guerre entre eux. Alors que, on n'en a pas parlé, Voltaire entretient avec l'autre grand de la philosophie, il ne faut pas oublier, c'est un trio quand même, et on peut même en ajouter quelques autres, d'Alembert et quelques autres, avec Diderot, des relations qui resteront toujours cadres. Ils ne se connaissent pas, ils ne se voient pas, mais ils s'écrivent. Voltaire participe à l'encyclopédie, donne des articles à l'encyclopédie.
De Genève, oui.
Et simplement, il y a un point sur lequel il y a un désaccord total avec Diderot, et là, ça accrochera un petit peu entre eux, par lettre. C'est la question de l'athéisme. Hein, Diderot, est-ce qu'il est le petit groupe des athées parisiens, Holbach, etc., fait que là, il y a un peu un clash entre eux. Mais à chaque fois que le parti, ce qu'on appelle à l'époque le parti philosophique, est mis en cause, par exemple dans la pièce de théâtre de Palissot, Les philosophes, Voltaire se réveille, il a beau pas être d'accord avec les athées, il va à leur secours et malgré tout, il peut être quand même considéré, y compris par eux, comme le chef de file des philosophes.
Alors peut-on, Pierre Milza, parler d'une philosophie voltairienne? Quel est, j'allais dire, l'apport de sa défense de ce qu'il appelle l'humanité à travers les affaires dont il va être l'avocat, l'affaire Calas, l'affaire Sirvin, Delabarre, etc. C'est ce que nous verrons, Pierre Milza, après cette toute dernière pause. Nous nous retrouvons tout de suite.
Sur Canal Académie, découvrez le parcours étonnant du naturaliste Théodore Monod de l'Académie des sciences. Initialement océanographe, il tomba littéralement amoureux du désert, où jusqu'à ses 92 ans, il foula le sable de longues marches, toujours à l'affût de nouvelles plantes, fossiles ou roches. Retrouvez dans notre médiathèque la vie de Théodore Monod, contée par son biographe Roger Kans.
Nous entamons la dernière partie de cette émission consacrée à Voltaire. Pierre Milza, vous êtes l'auteur d'une biographie de François-Marie Arouet, dit Voltaire, paru chez Perrin. Alors, nous avons évoqué son parcours, ses liens philosophiques avec Jean-Jacques Rousseau, avec Diderot. Peut-on parler d'une philosophie voltairienne? Finalement, la philosophie amène le philosophe à se poser la question de Dieu. Est-ce que il y a un particularisme voltairien sur l'idée de Dieu?
Oui et non. D'abord, il y a une évolution des idées de Voltaire et des croyances de Voltaire. Il y a une première période, il y a une période libertine, on a dû remettre un peu tout en question. A-t-il été athée à un certain moment? On ne sait pas très bien. Mais en tout cas, une période libertine. Et puis, il y a la période dans laquelle, dans le fond, ce qu'intéresse Voltaire, c'est un petit peu le dieu mécanicien. C'est la fameuse phrase,
l'être
Dieu
suprême.
Existe, il y a l'horloge, donc il faut bien un horloger. Mais très vite se pose à lui le problème fondamental que se pose d'ailleurs Spinoza, Leibniz et tous les philosophes du siècle, le bien et le mal. Et il est passé par différentes phases.
Il se pose surtout cette question à un moment crucial de la vie de l'Europe et de son œuvre, c'est le fameux désastre de Lisbonne, le tremblement de terre.
Tout à fait. Il a d'abord été, non pas leibnizien, Émilie a été très leibnizienne, ils étaient souvent en désaccord là-dessus, mais enfin il y a eu un moment où il a été un petit peu attiré par l'optimisme béat, de Leibniz, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ça n'a pas duré très longtemps. Et effectivement, le coup dur porté à cela, ça a été le désastre de Lisbonne, 40 000 morts. Enfin, on n'a pas les chiffres aussi exacts que qu'on les a aujourd'hui, mais enfin, plusieurs dizaines de milliers de morts. Et là, tout d'un coup, se pose à lui la question fondamentale, en fait, de la religion, c'est-à-dire comment un Dieu peut-il être à la fois tout-puissant et infiniment bon et laisser se perpétrer des horreurs comme la guerre, la peste ou le désastre de Lisbonne. Et là, il semble qu'il va basculer. Et attendez, il y a ce que nous avons hein, du désastre de Libre, le poème tel que nous l'avons aujourd'hui, tel qu'il avait commencé à l'écrire et où il a été un petit peu amené à prendre ses précautions sous la pression de certains de ses amis genevois. Donc il a été à un moment sur le point de, dans le fond, ne pas accepter l'idée d'un dieu bon. Et c'est là que va se constituer à la fois ce qu'on peut appeler son théisme plus que son déisme. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement pour lui de dire « il y a un dieu, il y a une création, dont il y a un dieu », mais ce dieu, dans le fond, il est capable de trancher entre le bien et le mal. Et c'est le moment où il y a eu la période candide où il conclut sur le fameux « il faut cultiver son jardin », c'est-à-dire il faut il faut se résigner, en fin de compte, à ne pas connaître Dieu, parce qu'il est inconnaissable. La science ne permettra certainement pas de le connaître. Et il faut donc se résigner à cela. Et puis, par la suite, il viendra, on sait tout ça à travers l'excellente thèse de René Pommeau, la religion de Voltaire, il s'orientera davantage vers un théisme mystique, vers l'acceptation, finalement, d'un Dieu bon, mais qui sera jamais le Dieu chrétien. Ce qui est important, c'est que il est donc anticlérical, hostile aux religions révélées, mais en même temps, non pas du tout irreligieux, mais religieux. Il y a une scène qu'on cite quelquefois, et qui est assez étonnante. Il reçoit à Ferney un jeune de la Tour du Pin. Ce jeune homme, on lui en a reçu beaucoup, de ces jeunes gens qui l'aident quelquefois à démarrer dans le métier littéraire. Et ce brave garçon est en train de dormir une nuit à Ferney. Tout d'un coup, on tambourine à la porte, il va à la porte, il voit Voltaire en chemise de nuit et avec son bonnet de nuit, qui lui dit « Dépêchez-vous de vous habiller si vous avez envie de me suivre pour que j'aille voir le lever du soleil. » Le gars se rendort, il revient tambouriner une heure après, il est tout habillé, perruque et tout. Il lui dit « Bon, habillez-vous, on y va. » L'autre, on y va, monsieur de Voltaire. Alors, ils font un certain nombre de kilomètres dans la campagne, quasiment dans les montagnes. Puis, ils arrivent en haut d'une petite montagne. Et là, Voltaire, le soleil se lève, Voltaire s'agenouille, les bras en croix. Et c'est l'adoration, non pas du soleil, mais de Dieu, créateur du soleil, créateur de la nature. Et ça reste, et la Tour du Pin, c'est extraordinaire. Enfin, il est surpris par ça. Puis, tout d'un coup, il se lève et puis dit... Quant à Madame la Mère et Monsieur le Fils, alors ça c'est une autre affaire. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a l'adoration pour ce Dieu créateur de la nature et bon, et en même temps le rejet et l'Immaculée Conception et même de la divinité de Jésus-Christ. Donc c'est ça la religion de Voltaire. Mais qu'est-ce qu'il en ressort au niveau de la conduite? Il en ressort que on est là quand même pour limiter le nombre de misères sur la terre, le nombre de malheurs sur la terre. Et alors là, on rejoint le Voltaire agissant. C'est plus seulement le Voltaire croyant, c'est le Voltaire agissant, c'est-à-dire qu'il va se lancer à près de 70 ans dans la défense d'innocents. Et en même temps, parce que c'est en parallèle, il ne faut pas l'oublier, en même temps, il est le hobereau Voltaire, le seigneur Voltaire, monsieur de Voltaire, comte de Tournai, seigneur de Ferney, comte de Tournai, qui a ces gens qui transforment un mot absolument minable, où il y a quelques dizaines de familles, en une petite ville très prospère, où on pratique des industries.
Où on restaure l'église.
Où on restaure l'église. Parce que là, dans la religion de Voltaire, il y a aussi l'autre chose, c'est que lui, sa religion, comme il dit, les honnêtes gens sont théistes, la canaille, pas la règle, mais la canaille, il faut qu'elle croie dans ce que les curés lui enseignent.
Il y a un élitisme chez... il distingue... on parlerait de populisme aujourd'hui, il rejette le populisme pour lui.
Il est parfaitement élitiste, il y a les honnêtes gens. Il souhaite d'ailleurs que le plus grand nombre de gens possibles viennent des honnêtes gens, mais il constate qu'autour de lui, c'est quand même 90% de paysans. Mais en même temps, il faut les aider, il faut les faire sortir de leur misère, et il joue un rôle philanthropique incontestable et tout à fait sincère. C'est pas pour rien que Voltaire deviendra, que Ferney viendra Ferney-Voltaire. Donc il y a ça, il y a à la fois cette action auprès de la population locale. Il est le seigneur de Tournai, il s'en occupe comme un hobereau devrait s'en occuper. Et puis il y a alors se lancer, l'intellectuel, le premier des intellectuels, c'est-à-dire qui sort de son rôle d'écrivain pour intervenir sur l'espace public. C'est vraiment la définition de l'intellectuel de Pizzola. Et il va se lancer à ce moment-là dans les grandes affaires. Moi, à un moment, quelque part, je dis, à la fois, si on met en parallèle cette résignation de Candide et cette volonté de faire du bien, ça me fait penser à Camus, c'est le rocher de Sisyphe. On peut imaginer Sisyphe heureux. C'est ça la philosophie de Voltaire.
Alors, vous le présentez dans son action, dans l'affaire Callas, l'affaire Sirvin, etc. Vous en faites un précurseur de la modernité dans son action, puisqu'il utilise l'information, il a le souci de l'information et à la fois le souci de la publicité.
Alors en effet, non seulement il invente le statut, je vais dire, d'intellectuel, mais il invente en même temps, on ne peut pas dire qu'il invente l'opinion publique, mais il est le premier à mettre en mouvement ce qui va devenir l'opinion publique. Alors, il a, toute sa vie, il l'a consacré à ça, à préparer cela. C'est-à-dire qu'il s'est entouré de protecteurs, de hauts protecteurs en France, en même temps de relations privilégiées avec les têtes couronnées, avec aussi, pas seulement les grands, pas seulement Catherine et Frédéric, mais également, Émilie parlait des petites courettes allemandes. Il a la passion des courettes allemandes. C'est ces petits états, Württemberg, Hesse, etc. Et lorsque va se poser le problème de réveiller l'opinion, il la réveille pas seulement en France, il faut faire pression aussi sur les grands en France, sur Versailles, et bien il fait appel à ces gens-là et il intervient dans cet espace-là.
Alors, vous parliez tout à l'heure de Candide, et Candide, au fond, se pose trois questions. Suis-je heureux? Puis-je l'être? Et comment prendre la vie? Est-ce que Voltaire, d'après vous, a été, à la fin de sa vie, un homme heureux?
Il a pu être très malheureux à certains moments, mais je crois qu'il est fondamentalement heureux. D'ailleurs, c'est ça qui l'a tenu en vie. Heureux parce qu'il avait réalisé ses objectifs, et bien au-delà de ses objectifs. Heureux, parce qu'on ne peut pas ne pas être heureux quand on est reçu, comme il l'est à Paris à son retour, où il va mourir.
En 78, oui.
Triomphe. Et il faut noter, on parlait de l'élitisme, les rapports qu'on peut avoir sur cette période et sur cet événement montrent que dans ceux qui l'acclament, qui viennent l'acclamer, ils passent de l'Académie française à la Comédie française, tout ça est aux Tuileries, au Louvre et aux Tuileries, il y a des petites gens, il y a des gens de toutes conditions. Il devient une icône et il est admiré par le peuple, aimé par le peuple. Et ça, c'est l'affaire Callas. Les images de Voltaire qui sont distribuées dans la rue, les chansons, etc. Ça, c'est l'affaire Callas qui a fait de lui. Donc, je crois qu'on peut dire que oui, Voltaire est heureux et mort heureux, probablement.
Mais paradoxalement, vous citiez tout à l'heure un certain pessimisme. Dans votre biographie, vous utilisez même à un moment le terme de pessimisme absolu.
Oui, à un moment de sa vie. Vous savez, il y a aussi les relations qu'on n'a pas le temps d'aborder, mais enfin, entre les moments de sa vie difficiles, quand même le drame, le grand drame de sa vie, c'est la mort d'Émilie du Châtelet, et puis des désillusions, qui peuvent être des désillusions dans l'ordre de la production artistique, des pièces qui sont mal accueillies. Donc il y a des moments où effectivement, il est pessimiste, mais ça ne dure pas. Ça ne dure pas. Et à chaque fois, il se requinque, si je puis dire, avec l'écriture, avec la production. C'est sans arrêt. Les dernières années de sa vie, il y a des pamphlets, des libelles, des pièces de théâtre. Il va encore, quelques semaines avant de mourir, sur la scène pour admonester les acteurs et frappant de sa canne, etc. Donc, l'action et l'écriture le sauvent des moments de désespoir qu'il a pu avoir, car cet homme... Son désespoir venait surtout de sa mauvaise santé. Une lutte permanente contre la mort.
Cela signifie qu'il y a chez Voltaire, malgré tout, une place pour l'espérance.
Tout à fait, il y a une place pour l'espérance. Il y a une immense énergie et une place pour l'espérance. Et pour l'espérance de voir la société se transformer.
Ouais.
Je ne suis pas certain qu'il soit, comme on dit, quelquefois un précurseur de la Révolution, mais il voit le monde se transformer, il aperçoit un monde qui se transforme.
Alors, on l'a répété plusieurs fois, il n'est pas spécialement démocrate. Il existe chez Voltaire une monarchie idéale, nous l'avons évoqué. Quelle est sa postérité, finalement, au XIXe siècle? Le romantisme, par exemple, du XIXe siècle, fut très critique à l'égard de Voltaire.
Le romantisme est essentiellement anti-voltairien, d'abord parce que le romantisme est plus du côté de Rousseau, le romantisme est réactionnaire sur le plan politique. Mais, assez vite... Il y a un certain nombre de romantiques qui vont percevoir, dans le fond, ce qu'il y a de finalement pas si différent que d'eux chez Voltaire. Ça sera le cas d'Hugo, ça sera le cas de Lamartine, qui exalte Voltaire dans ses cours universitaires. Musset le déteste, le ricanement, l'horrible rire de Voltaire, il déteste. Mais Hugo d'ailleurs, après l'avoir combattu dans les années 1830, terminant, il meurt immortel. Considère que Voltaire est immortel. Alors, au XIXe siècle, en revanche, politiquement, il y a deux moments où Voltaire, finalement, est exalté. Il y a la monarchie constitutionnelle, surtout le règne de Louis-Philippe, avec les grands penseurs libéraux, qui dans le fond reprennent beaucoup des idées de Voltaire. Et puis il y a un deuxième triomphe de Voltaire, c'est après la victoire des Républicains en 1879, les lois Ferry, enfin, c'est ces grands bourgeois voltairiens qu'il ne faut pas confondre avec M. Homais. Un Flaubert était un admirateur de Voltaire, mais il avait créé le personnage de M. Homais, le pharmacien Homais, pour dénoncer ce qu'il pouvait y avoir dans le fond de mauvais dans certains voltairiens.
Alors, je reviens au début de notre émission, hein, dans vos motivations. Vous dites que, une des raisons pour lesquelles vous avez écrit cette biographie, c'est le fait religieux aujourd'hui. Bon, vous avez des mots assez durs, hein, à l'égard de la religion catholique. Vous parlez même de totalitarisme.
J'emploie une fois le mot totalitarisme, et très sciemment. Ben, si vous voulez, je ne vais pas parler évidemment pas de la religion d'aujourd'hui, mais si on revient au XVIIe ou au XVIIIe siècle, vous avez quand même un façonnement de l'individu sur un modèle unique qui est la définition même du totalitarisme. Ce n'est pas du totalitarisme politique, bien entendu, c'est du totalitarisme religieux. Alors, Voltaire aujourd'hui, évidemment, on peut très facilement le mettre en face d'un totalitarisme qui non seulement est politique, mais en même temps religieux, puisqu'il mélange la religion et la politique. Mais déjà, dans le règne d'un Louis XV, il y avait l'alliance du trône et de l'autel, mais enfin... Aujourd'hui, c'est très clair, c'est là que Voltaire est utile, c'est dans la dénonciation de l'impossibilité que peut avoir une religion de se séparer, en fin de compte, du bras séculier.
C'est par l'œuvre de Voltaire qu'au fond, les droits de l'homme se substituent aux droits de Dieu, puisque nous ne l'avons pas peut-être assez évoqué, mais la question de l'humanité, il se bat, hein, il parle même de guerre pour l'humanité.
Il dit « je fais la guerre ». Et c'est important, mais on n'a pas le temps d'en parler là, pour expliquer quelquefois les contradictions de Voltaire. Ben, ce qui est certain, c'est que Voltaire est un de ceux qui portent les coups les plus durs à l'Ancien Régime, puisque dans le fond, il sape la base de l'Ancien Régime. La base de l'Ancien Régime, c'est l'alliance du trône et de l'autel, bon, du bras séculier et de l'Église. Donc il porte un coup très dur, c'est ce qui explique d'ailleurs sa volonté de saper à la base. Par exemple, on parle parfois, à juste titre, de l'antijudaïsme, voire de l'antisémitisme de Voltaire. Il n'est pas antisémite, Voltaire, il est contre les juifs de la Bible. Il n'est pas contre les juifs du temps présent, il est contre les juifs de la Bible, simplement parce qu'ils ont enfanté le christianisme. Donc chez lui, il y a une désacralisation de la monarchie. Bonazouf montre bien cela, et dans le fond, lorsqu'il y a la fuite à Varennes, le trône est déjà très très chancelant. Le regard qu'a le peuple sur le trône est déjà très très critique. Mais c'est vrai qu'il a joué un rôle fondamental dans la désacralisation du régime, et par conséquent, non pas dans la révolution, parce que quand on dit précurseur de la révolution, on peut imaginer qu'il était révolutionnaire. Non, mais dans l'ébranlement des bases, ce qui va faire que le régime va s'écrouler une dizaine d'années plus tard, pas seulement.
Mais il avait cette conscience, parce qu'encore une fois, il reste royaliste.
Ah mais tout à fait, il reste royaliste et il est probable qu'il l'aurait été s'il avait vécu sous la Révolution. Et je ne veux pas faire de l'histoire prospective à l'envers, mais il aurait été probablement trop vieux pour avoir le sort de Condorcet et de quelques autres. Mais en tout cas, on peut l'imaginer.
Eh bien, Pierre Milza, je vous remercie beaucoup d'être venu au micro de Canal Academy. Je renvoie nos auditeurs à votre ouvrage, Voltaire, paru aux éditions Perrin. Je me permets de renvoyer également les auditeurs à une autre émission enregistrée avec Élodie Courtejoie, qui a reçu Laurent Desgosses, auteur du livre Les Nouvelles Aventures de Candide, qui est tout simplement une présentation de l'œuvre de Candide, mais tout simplement à la mode de la fin du XXe siècle. Voilà, merci beaucoup Pierre Milza. Je renvoie aussi nos auditeurs à l'émission Au fil des pages, consacrée aux nouvelles aventures de Candide. Laurent Desgosses, l'invité d'Élodie Courtejoie, a en effet changé quelques mots du texte de Voltaire pour montrer ô combien il était actuel. C'était Ulrich à la technique, une nouvelle émission d'Un jour dans l'histoire. À très bientôt pour un nouveau numéro.